Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Bonjour Mathieu Ozano.
Bonjour.
Directeur du think tank de transition énergétique The Shift Project. Alors que les cris d'alarme se succèdent sur les dangers du réchauffement et l'urgence à éviter la catastrophe climatique, les derniers chiffres d'Eurostat sont tombés mercredi. Ils indiquent que les émissions de CO2 sont reparties à la baisse en Europe l'an dernier. Une diminution de 2,5%. Que disent ces statistiques et comment les lire?
Alors effectivement, l'an dernier, il y a eu une baisse relativement encourageante des émissions de CO2, c'est bien. Maintenant, si on dézoome, si on prend un peu de chance, si on regarde à une échelle qui est plus significative sur une dizaine d'années, l'évolution est toujours à la baisse, mais beaucoup moins importante. Et surtout, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on est loin de la marque, loin du point de mire qui est celui des accords de Paris sur le climat, qui supposerait, aujourd'hui, l'Europe baisse ses émissions par an en moyenne sur 10 ans de l'ordre de 1,5% par an. Il faudrait être au moins à 5% par an pour espérer tenir les accords de Paris. Et 5% par an, c'est autre chose. C'est une autre organisation.
5% de baisse, c'est exactement ce qu'a fait l'Allemagne l'an dernier. Mais sauf que l'Allemagne est de loin le plus gros émetteur de CO2, plus de 2 fois le volume français.
Oui, l'Allemagne conserve l'une des activités économiques les plus carbonées, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils utilisent beaucoup de charbon et beaucoup de gaz naturel. Alors effectivement, l'an dernier, l'Allemagne a baissé ses émissions. L'ironie du sort, c'est qu'elle l'a fait pour partie parce que l'été a été très chaud et qu'il y a eu peu de besoins de chauffage en Allemagne. On pourrait dire qu'il y a peut-être un lien avec le réchauffement climatique. Mais au-delà de ça, l'Allemagne conserve à pratiquement la moitié de son électricité produite avec du charbon. Et il substitue du charbon à du gaz qui font venir de Russie. Donc, en quelque sorte, il déshabille Pierre pour habiller Paul un peu moins mal. C'est-à-dire qu'il remplace une source qui est très émissive, qui émet beaucoup de CO2, qui est le charbon, par une source qui l'est moins, mais qui émet quand même beaucoup, oui, de CO2, qui est le gaz naturel.
Mais ça veut dire aussi que la stratégie allemande de sortie du nucléaire et de remplacement par des énergies renouvelables, elle a été désastreuse en termes d'émissions de CO2.
Elle n'a pas été couronnée de succès, loin s'en faut. Grosso modo, les émissions depuis l'accident de Fukushima en 2011, c'est-à-dire depuis la décision prise par l'Allemagne de sortir du nucléaire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé les centrales nucléaires pour remplacer par beaucoup d'éoliennes et un petit peu de panneaux solaires. Mais le problème, c'est que le vent ne souffle pas tout le temps et que le soleil n'est pas tout le temps là. Donc, ils ont besoin quand même de beaucoup de gaz naturel, précisément, pour prendre le relais quand il n'y a pas de vent et quand il n'y a pas assez de soleil. Au final, les émissions de l'Allemagne baissent beaucoup trop lentement pour qu'ils espèrent tenir leurs propres objectifs de réduction d'émissions.
Quelle leçon ça donne pour la France? Alors la France qui, l'an dernier, elle aussi, a affiché une baisse, 3,5%, alors que ses émissions de CO2 avaient grimpé de 3% l'année d'avant. Quelle leçon pour la France, sachant qu'on a quasiment supprimé, nous, les centrales à charbon? Ça veut dire que les investissements en énergie renouvelable, solaire ou en éolien, ils viendraient non pas remplacer des énergies carbone, mais une énergie décarbonée comme le nucléaire.
En remplaçant du nucléaire qui n'émet pas de CO2, qui a plein d'autres caractéristiques éventuellement problématiques comme les déchets nucléaires par ailleurs, mais de fait, du point de vue du réchauffement climatique, remplacer du nucléaire par des énergies renouvelables, c'est à nouveau déshabiller Pierre pour habiller Paul, en plus avec un problème complémentaire qui complexifie l'équation, c'est que le nucléaire, vous pouvez vous en servir à peu près 80% du temps.
C'est pilotable.
C'est relativement pilotable, c'est surtout disponible tout le temps. Tandis que, encore une fois, le vent ou le soleil, ils ne sont pas à disposition tout le temps. Et on ne sait pas très bien aujourd'hui, enfin, il y a des gens qui disent que c'est possible, mais c'est très contesté, qu'on soit capable de produire toute l'électricité d'un pays avec uniquement des énergies renouvelables. Ça, c'est une chose. Mais il ne faut pas s'arrêter à l'électricité, parce que finalement, l'électricité, c'est à peu près un cinquième de l'énergie qu'on consomme.
20% seulement de l'énergie.
Oui, c'est ça, quelque chose comme ça. Donc, la France, de ce point de vue-là, n'est pas du tout un meilleur élève que l'Allemagne, par exemple, puisque il suffit de regarder par sa fenêtre la circulation. On n'a pas du tout décarboné, on n'est pas du tout sorti du pétrole pour ce qui est des transports, et pas beaucoup non plus pour le chauffage.
Ça veut dire que plutôt que de dépenser des milliards pour changer notre mode de production électrique, on devrait les mettre pour les transports ou pour l'isolation thermique?
La crise des gilets jaunes qui est partie sur les prix de l'essence devrait nous inviter à dessiner ce que pourrait être une stratégie cohérente de sortie du gaz naturel et du pétrole. Quand on parle de transition énergétique, quand on débat de transition énergétique, on parle quasi exclusivement d'électricité et de cette alternative nucléaire versus renouvelable. Il faudrait parler de modes de transport et d'isolement des bâtiments. C'est un problème sur lequel on constamment hésite en fait à avoir une démarche audacieuse qui, permettrait à la France et ou à l'Europe de montrer la voie de ce que pourrait être une économie débarrassée des énergies fossiles. Ça, c'est une chose, mais aussi parce que ces énergies carbonées fossiles sont tarissables et vont se tarir tôt ou tard. Aujourd'hui, l'Agence internationale de l'énergie, qui est à Paris, nous explique qu'à l'horizon 2025, on ne sait pas trop comment on va pouvoir maintenir la production mondiale de pétrole. Donc, il y a degré ou de force, degré si on veut éviter un réchauffement supérieur à 2 degrés, ou de force, parce que tôt ou tard, on va manquer de pétrole, de charbon et de gaz. On a d'excellentes raisons pour avoir une stratégie cohérente. Or, cette stratégie cohérente, elle n'existe pas en France, elle n'existe pas en Allemagne, elle n'existe nulle part dans le monde. C'est un peu dommage du point de vue de la France, parce que l'accord de Paris sur le climat qui engage à avoir une stratégie cohérente comme ça, il a été signé à Paris. Et on a une toute petite responsabilité morale devant l'histoire pour être la première nation ou le premier groupe de nations, si on parle de l'Europe, capable de dessiner une stratégie cohérente qui nous permettrait de nous passer de ces énergies fossiles qui sont en train de bousiller le climat pour les siècles et des siècles et qui, en plus, nous conduisent à scier la branche sur laquelle on est assise, parce que le jour où l'Europe pourra plus s'approvisionner correctement en pétrole, c'est les gilets jaunes puissance 10 qu'on va avoir. Faut bien en être conscient.
Mathieu Ozano, directeur du think tank The Shift Project, on vous retrouve dans une minute pour évoquer d'autres pistes de solutions. À tout de suite.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Avec Mathieu Ozano, le directeur du think tank de transition énergétique The Shift Project. Mathieu Ozano, on lisait tout à l'heure, la France, elle n'émet qu'un 1% seulement des émissions mondiales de CO2. D'une certaine façon, c'est une goutte d'eau et la quantité qu'elle a émise de CO2 a baissé d'environ un tiers depuis 40 ans, davantage que pour l'Union européenne, un quart, tandis qu'elle augmentait de 10% aux États-Unis et de 600% en Chine. Est-ce que, compte tenu de tout ça, ça a un sens de proposer des solutions nationales alors qu'on voit bien que le problème, il est global?
Oui, bien sûr que ça a un sens. D'une part, si les émissions de la France ont autant baissé, c'est parce que, et qu'elles ont autant augmenté en Chine, c'est parce qu'on s'est désindustrialisé et qu'on a déporté la production industrielle en Chine, précisément. Bien sûr que ça a du sens. Pourquoi? Parce que tout le monde va devoir s'adapter au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique va être une réalité. Il commence à s'installer. Donc, les premières nations qui seront capables, un, d'y faire face, et deux, d'apprendre à fonctionner sans ces énergies fossiles, auront ce qu'on appelle en économie un avantage comparatif, un avantage concurrentiel à être la première nation capable de faire fonctionner ces grands systèmes techniques, industriels, de transport, de bâtiments, sans ces énergies fossiles qui, tôt ou tard, vont nous quitter de gré ou de force, comme je le disais tout à l'heure.
Vous êtes sûr de ça? Il n'y aura pas des transferts, ce qu'on appelle les fuites de carbone, c'est-à-dire que quand un pays devient vertueux, bah forcément les voisins qui sont moins scrupuleux en profitent parce qu'ils ont des activités plus polluantes mais plus rémunératrices.
Bien sûr, c'est là qu'il faut nécessairement, pour une aborder ce
globale.
Problème, avoir une stratégie cohérente, et je pense que la bonne échelle pour l'avoir, c'est l'échelle du premier marché mondial, c'est celui de l'Union européenne. Et aujourd'hui, la conversation est rompue parce qu'on a vraiment deux modèles qui s'opposent dans les grands pays, dans les grandes économies européennes. Il y a la France et l'Angleterre, on en parle très peu, mais la Grande-Bretagne, pardon, c'est beaucoup décarboné,
oui,
beaucoup plus que l'Allemagne. Et puis, on a un autre groupe de pays qui est constitué par les pays de l'Est qui restent très voraces en charbon. Et puis l'Allemagne qui reste très vorace, le pays le plus vorace d'Europe en combustible fossile. Et c'est un peu aussi un avantage pour eux, aujourd'hui, dans le monde actuel, concurrentiel important, parce que ça leur permet, grâce à tout ce charbon, de faire une industrie compétitive. C'est exactement le même pari faustien, le même pari démentiel qui est celui de Donald Trump, qui consiste à dire « jusqu'ici, tout va bien, et après nous, le déluge, littéralement. Après nous, le déluge. » Et aujourd'hui, dans les négociations européennes, la France et quelques autres pays, dont la Grande-Bretagne jusqu'à une date récente, disent on peut aller beaucoup plus loin dans la décarbonation. Et le pays qui bloque ça, qui dit je ne veux pas qu'on mette zéro émission de CO2 à l'horizon 2050, c'est l'Allemagne. Donc il y a une conversation historique qui doit être menée autour de cet enjeu, qui n'est pas un enjeu qui est juste entre nous et l'environnement. C'est aussi un enjeu géostratégique extrêmement lourd. Notre siècle, le 21e siècle, aura commencé par une guerre du pétrole avec l'invasion l'invasion de l'Irak en 2003. Ce sont des enjeux, on le voit bien aujourd'hui avec la politique de la Russie, ou même avec la politique de Donald Trump. L'énergie, c'est le sang de l'humanité. C'est le sang du système sanguin de l'économie mondiale. Donc, je pense qu'il serait cohérent, raisonnable et audacieux pour l'Europe de montrer la voie de ce que pourrait être une économie débarrassée de ces énergies fossiles qui mettent les générations à venir dans des situations extrêmement périlleuses et qui seront irréversibles.
Quelle pourrait être la solution globale? Quel pourrait être le projet commun? Est-ce que c'est, comme le disent certains économistes, l'instauration d'un prix du carbone au niveau d'un groupe de pays ou d'un continent qui permette d'harmoniser cela?
Le prix du carbone, c'est un outil. C'est un outil parmi d'autres. C'est un outil qui doit être au service d'une stratégie cohérente, encore une fois. On voit bien que si on utilise cet outil sans discernement, on se retrouve avec une incompréhension. Là, c'est exactement ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. On dit Français, payez.
C'est le pollueur-payeur.
Voilà, mais
c'est le
principe,
le prix du carbone.
L'alternative, quand
oui.
on veut prendre son diesel et faire 40 bornes par jour pour aller bosser, et qu'on n'a pas l'alternative d'une part, et d'autre part, quand on vous a dit pendant des décennies que c'était la bonne solution d'aller s'installer loin des centres-villes, là où le foncier était pas cher, parce que le diesel, précisément, ne l'était pas, on a coincé les gens. Le prix du carbone est un outil, mais il doit être au service d'une stratégie cohérente, bien comprise, on a tous les outils pour ça. D'abord, on a un engagement historique qui s'appelle l'accord de Paris, qui a été signé par quasiment toute l'humanité. Mais aujourd'hui, on est dans la situation, d'un fumeur. Je suis bien placé pour en parler, parce que je suis un ancien fumeur, qui se dit « Demain, j'arrête. Demain, j'arrête. » Mais il me reste deux clopes dans mon paquet. Où est le prochain tabac ouvert ? C'est-à-dire qu'on a bien compris, on a bien le diagnostic en tête. On est accro à cette énergie, ces énergies fossiles. On n'a absolument pas le courage et l'audace historique de dessiner ce que pourrait être une thérapie à la hauteur du problème qu'on a, de cette maladie.
Merci beaucoup Mathieu Ozzano de nous avoir éclairé ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le directeur du think tank de transition énergétique The Shift Project. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Bonjour Patrick Artus.
Bonjour.
Professeur associé à l'École d'économie de Paris, chef économiste de Natixis. Votre nouveau livre, Discipliner la finance, chez Odile Jacob, s'ouvre sur un chiffre choc. La finance mondiale représente aujourd'hui 400 000 milliards de dollars, soit 5 années du PIB de la planète. Et vous pensez que ce poids démesuré par rapport à l'économie réelle peut nous conduire à la catastrophe? On va en parler. Je voudrais d'abord que vous nous éclairiez sur la situation d'un pays, les États-Unis, où la dette publique atteint des sommets, 22 000 milliards de dollars, plus d'une année de PIB, mais qui économiquement ne s'est jamais aussi bien porté, avec un taux de chômage au plus bas depuis 69. C'est parce que Trump laisse filer les déficits ?
Je vais défendre la thèse sans doute choquante que Trump est un génie en économie.
Ah.
Qu'est-ce que Trump a compris ? Un, que le dollar était la monnaie de réserve du monde.
Oui.
Donc quand on fait des déficits aux États-Unis, déficit public entraînant un déficit extérieur, hein, ça se finance sans aucune difficulté. Donc on finance en ce moment un déficit budgétaire qui est à peu près de 5% du PIB, avec des taux d'intérêt qui sont en dessous de 2,5. Parce que la terre entière achète des dollars. Hein, et ça finance un déficit extérieur qui dépasse 800 milliards de dollars. Deuxième point, Trump est devenu un adepte, enfin depuis le début, de ce qu'on pourrait appeler la théorie de la surchauffe. C'est-à-dire, même si on est apparemment au plein emploi, il faut continuer à stimuler l'économie. Et donc, on la stimule par la politique monétaire, d'où les pressions sur la réserve fédérale pour qu'elle arrête de monter ses taux d'intérêt, et peut-être même que la réserve fédérale va même baisser ses taux d'intérêt, et d'où la politique expansionniste budgétaire, hein, avec des baisses d'impôts, des dépenses d'infrastructures, etc.
Baisse d'impôts pour les plus riches et pour les entreprises.
Et pour les entreprises. Oui. Mais à la fin, qu'est-ce que ceci produit ? Et c'est toute l'idée de cette politique de surchauffe. Les entreprises sont confrontées à une forte demande, alors qu'il y a de grandes difficultés de recrutement. Donc qu'est-ce qu'elles font ? Un, elles font des gains de productivité, donc elles deviennent plus efficaces, ce qui est bien. Et deux, elles embauchent des Américains dont on pensait qu'ils n'étaient pas employables. Mmh. Et d'où la baisse incroyable du taux de chômage, hein, à 3,6, parce qu'on arrive à ramener à l'emploi des Américains dont on pensait qu'ils ne reviendraient jamais à l'emploi.
On va revenir dans un instant sur la dette et le déficit, question clé, évidemment, Patrick Artus. Mais ce qu'on entend en France, parfois dans le débat public, c'est que le succès économique américain, c'est que Trump recueille les fruits de son attitude très ferme à l'égard des Chinois, que c'est le protectionnisme qui paye.
Alors là, la réponse n'est pas du tout. On a maintenant des évaluations du protectionnisme qui est en place, hein, donc pas de celui qui pourrait commencer bientôt. C'est, vous savez, c'est 250 milliards de dollars d'importations depuis la Chine qui sont taxés à des taux assez différents, la plupart à 10%. Et tous les travaux concluent que ceci a un effet à peu près nul sur l'économie américaine. Parce que, en réalité, ce que les États-Unis importent de Chine, ils doivent continuer à l'importer. C'est des produits qu'ils ne fabriquent pas. Donc, ils sont plus chers, ils continuent à les importer. Mais n'oubliez pas que les droits de douane, c'est un impôt qui est redistribué. Donc, vous taxez les importations, vous prenez l'argent, puis vous le rendez aux Américains, cet argent, hein, par le déficit public. Et à la fin, ça n'a pas d'effet. Donc, on trouve, et des gens qui font des trucs très compliqués et très détaillés à un niveau très fin de produit, que l'effet du protectionnisme n'a aucun effet sur les
Donc,
États-Unis.
La guerre commerciale avec la Chine, pour l'instant, en tout cas, ne profite pas aux États-Unis.
Alors, il ne faudrait pas que ça s'étende à des produits d'une nature différente, qui seraient des produits que les Américains peuvent produire eux-mêmes, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Parce que là, vous auriez un coup sur la Chine qui serait très important.
Je reviens à la dette et au déficit. La leçon américaine et la leçon du moment... Ce n'est pas que, compte tenu de la faiblesse des taux, on peut s'asseoir sur la dette et les déficits, Patrick
Artus. Oui, alors là, vous posez une question qui est, à mon avis, la question la plus importante aujourd'hui pour les économistes. Il y a tout ce développement de la pensée aux États-Unis. Hein. Ça s'appelle la théorie monétaire moderne. On ne sait pas pourquoi c'est monétaire, parce qu'en fait, ça parle de politique budgétaire. Mais enfin bon, qui dit, on est dans un environnement de taux extrêmement bas. Pour plein de raisons, il y a trop d'épargne dans le monde, les banques centrales sont expansionnistes, donc on va maintenir des taux d'intérêt extrêmement bas, donc utilisons la politique budgétaire. Alors là-dedans, il y a des gens assez radicaux qui disent qu'il suffit de l'utiliser, faire du keynésianisme à la japonaise, hein, donc couler du béton, quoi, sans regarder trop ce qu'on fait. Puis il y a des gens plus fins qui disent, mais il y a plein d'investissements utiles, l'éducation, la transition énergétique,
évidemment,
etc. Et donc, c'est une très forte critique de la pratique européenne, en disant les normes budgétaires qu'en Europe, on doit avoir un budget équilibré, hein, en dehors des périodes bizarres, des périodes de récession, cette pratique est désastreuse parce qu'on a aujourd'hui la capacité à faire plein d'investissements publics supplémentaires avec un coût de l'argent public qui est très bas. Il faut qu'on ait cette réflexion, et profondément la réflexion, c'est est-ce que nous croyons que les taux d'intérêt vont rester bas très longtemps, ou est-ce que nous croyons qu'il peut se produire quelque chose qui les fasse remonter très vite ?
Alors, question, qu'est-ce qui peut faire remonter les taux d'intérêt ? L'inflation ?
C'est l'inflation, évidemment. Et l'inflation, c'est les salaires. Donc en fait, on voit quelque chose qui est très profond, je crois, c'est que ces taux d'intérêt bas qui permettent de faire des politiques budgétaires très expansionnistes, ils viennent de la flexibilisation des marchés du travail.
Ouais.
Donc comme les salaires n'augmentent plus, même qu'on est au plein emploi, aux États-Unis, rendez-vous compte, on est à ce niveau de chômage dont on parlait avant, 3,6, les salaires augmentent de 0,2% par mois, 2,5% par an, c'est moins que quand il y avait plein de chômeurs. Donc les salaires n'augmentent plus parce qu'on a tout flexibilisé. Et donc, comme les salaires n'augmentent plus, il n'y a pas d'inflation. Comme il n'y a pas d'inflation, les banques centrales maintiennent des taux bas. Et donc, on fait du déficit public.
Et alors, je renverse le raisonnement. Pour ne pas relancer l'inflation, on est condamné à la modération salariale.
Alors, d'abord, il faut voir que cet équilibre est un peu absurde, même plus qu'un peu. Parce que finalement, on peut faire des déficits publics grâce au taux d'intérêt bas pour compenser la perte de demande des ménages qui vient de ce que les salaires sont trop bas. Donc en fait, on a un truc qui est totalement circulaire, quoi. On a des salaires qui devraient être plus élevés, mais ils sont trop bas. Et donc à la place de la demande des ménages qui est trop faible, on met de la dépense publique. Et on peut le faire parce que les taux d'intérêt sont bas. C'est le modèle japonais depuis 25 ans, c'est un modèle absurde. En réalité, il vaudrait mieux que les salaires soient plus élevés et qu'on ne fasse pas cette dépense publique. Hein. Mais on voit qu'on s'est mis dans une espèce d'irréversibilité dangereuse. Effectivement, aujourd'hui, on est forcé de faire plus de déficit public parce qu'à nouveau, on a un problème de pouvoir d'achat. Mais on se met dans une irréversibilité dangereuse. C'est que la remontée des taux d'intérêt dans un monde de dette très élevée serait affreuse hein, sur ses effets. D'ailleurs, à la fois sur les emprunteurs et sur les prêteurs hein, qui ont acheté des actifs financiers avec des taux d'intérêt très bas. Et donc, les banques centrales, en réalité, peut-être ne seront jamais plus en situation de remonter les taux d'intérêt, même si l'inflation le nécessitait dans le futur.
Discipliner la finance, Patrick Artus, c'est votre livre. Vous écrivez que le principal risque aujourd'hui, c'est l'endettement public des pays de l'OCDE. Ce que vous proposez principalement, c'est de réhabiliter le contrôle des capitaux.
Alors justement, il s'agit des émergents. Là. On se focalise souvent sur cette question de la dette aux États-Unis en Europe. Le plus grand déséquilibre financier dans le monde aujourd'hui, c'est le financement des pays émergents. Ces pays sont soumis à des oscillations incroyables des flux de capitaux. De temps en temps, tout le monde investit dans les émergents, puis de temps en temps, tout le monde s'en va. Ça crée des oscillations invraisemblables des taux de change. Rendez-vous que le Brésil, par exemple, a un taux de change qui parfois double ou est divisé par deux. Quoi. Je veux dire, donc c'est aucune économie ne peut résister à ce genre de choc. Et donc on détruit structurellement la croissance des émergents en laissant cette énorme volatilité des capitaux qui rentrent et qui sortent. Et ceci est dû évidemment à la taille de la finance dont vous parliez au début. Plus il y a d'argent en circulation, plus on peut arbitrer entre investir en dollars dans les pays des émergents, etc. Et la seule solution aujourd'hui que nous ayons, et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que le FMI, on parlait du consensus de Washington, qui était un consensus complètement libéral. Ben, le FMI aujourd'hui dit regardez sérieusement les contrôles des capitaux, c'est-à-dire la limitation de la taille des flux de capitaux qui rentrent ou qui sortent. Hein. Et donc, je crois que c'est quelque chose qui est assez intéressant, d'ailleurs, hein, cette sortie finalement du modèle néolibéral qu'on voit dans les grandes institutions internationales, hein, où aujourd'hui, on nous dit, oui, c'est une piste extrêmement sérieuse et qui restabilisera les économies. Et je pense que c'est quelque chose qui va se faire. Pour l'instant, les Chinois sont les seuls qui ont mis ça en place, mais je pense que d'autres pays émergents finiront par dire c'est pas possible, on peut pas détruire notre économie à cause des choix oscillants des investisseurs.
Discipliner la finance, votre nouveau livre, Patrick Artus, paraît chez Odile Jacob. Merci d'être venu nous en parler. Merci beaucoup.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Voici à présent un album étonnant qui conjugue la beauté d'une voix, la simplicité de l'accompagnement et les mélodies éternelles, universelles de Jean-Sébastien Bach.
This is a ditty by Johann Sebastian Bach. It's very pretty in the way it sways my heart. Now look, a melody will start and send an arrow or a dart into an unsuspecting heart while Cupid plays his classic part. And then the other melody will start a race that puts a smile upon my face that I can't seem to erase.
L'ouverture splendide du nouvel album de Noah, Let Us to Bach. Bonjour Noah.
Bonjour Patrick.
Sur le livret de l'album, vous écrivez à Bach une jolie lettre qui se termine par « Voulez-vous danser avec moi, Jean-Sébastien Bach ?» Il vous a répondu ?
Oui, c'est comme ça. Oui. No, he did not. But j'adore Bach. Pour moi, travailler avec Bach ou danser avec Bach, c'est mon proteste contre la trumpisme.
Ah bon, c'est
oui.
Vrai?
Oui, c'est comme ça parce que le monde, the world seems to be going down.
Le monde semble être en régression.
So I want to go up.
Et moi, yeah? Je veux que nous nous élevions.
C'est opposite vector.
Donc, vous voyez, dans un sens complètement différent de la tendance.
I also feel that the world seems to be destroying meritocracy. Like nothing means anything anymore.
À l'heure actuelle, on est en train de détruire la méritocratie. Plus rien n'a de signification.
Je ne suis pas d'accord. Non, for me, there is greatness and Bach is greatness.
Il y a de la grandeur et elle est représentée par Bach en l'occurrence.
So I wanted to invite Bach
donc
into
je voulais convoquer
21st century.
Bach au 21e siècle.
And, with his letters.
Et c'est ainsi que je sors ce livre et ces lettres.
Je ne pensais pas entendre une fois, un jour, que Bach serait l'opposé de Trump.
Exactement.
Parce que c'est ça que vous venez de dire, Noah. En tout cas, vous lui répondez à Bach magnifiquement avec ses 11 chansons. Donc, des musiques de Bach, adaptées par votre complice, le guitariste Gildor, ouais. Sur lesquelles vous avez posé des textes en anglais et en hébreu. Mm-hmm. Le tout produit par Quincy Jones. Vous allez nous dire pourquoi et comment, après avoir entendu le titre le plus joyeux et le plus plus virtuose de cet album, c'est la fameuse Badinerie de Bach.
No baby, no baby, no baby, no. Don't you ever say you're gonna go ahead and leave me. No baby, no baby, don't ever go. When I'm with you, I'm elated. All the rest is overrated. Every word you say and every moment of the day, the scooby-doo, the shooby-doo, Bach is my shiny neck, a two, Bach is my scene, do I roll every single day.
Quelle prouesse, Noah, parce que dans cette mélodie, il n'y a aucune pause pour un chanteur. Un Bach n'avait pas prévu de vous laisser respirer.
Et c'est un mon secret.
C'est votre secret. Vous n'avez changé aucune note.
Hein. Ouais. Mais le miracle est que la musique, tout le swing, tout le jazz, c'est dans les notes de Bach. Bach, he was
Bach était un formidable inventeur.
Improviser.
Et extraordinaire improvisateur.
Truly, he was a sort of jazz musician.
Oh, je pense que Bach était jazzman, quelque part.
C'est vrai. Expliquez-nous, Noah, comment est né ce projet et comment Quincy Jones est arrivé pour le produire.
Well, I just started getting interested in the idea of writing lyrics to Bach.
J'ai commencé à l'idée de poser des paroles sur la musique de Bach.
And it was sometimes, you know, like a fountain opened. Et en réalité, I was obsessed. I became
c'est comme
Bach
si
obsessed.
Une source jaillissait et que mon obsession pour Bach
especially
naissait.
Because I realized Bach
en particulier, je me suis rendu compte que Bach pouvait être un vecteur
ideas.
D'expression très contemporaine.
So album,
donc, dans cet album, on trouve le conflit israélo-palestinien. On trouve Elon Musk, on trouve les enjeux de l'éducation d'adolescents, et je sais de quoi je parle. Et tout ça, c'est très Bach.
Et Quincy Jones,
nous le connaissons, Gil et moi, depuis de très longtemps. À chaque fois que nous sommes à Los Angeles, nous allons lui rendre visite. Et j'ai dit à Quincy, tu veux écouter ce qu'on fait là ? On était là sur le canapé. Et lui, il a dit, waouh, c'est génial, j'adore, et je produis.
Miracle.
Mais avec Quincy Jones, on pense souvent à des grosses productions de grands orchestres, alors que là,
exactement.
C'est dépouillé.
C'est différent.
Hein, oui.
C'est différent. Quelle différence quand je chante. Morale, j'aime beaucoup. I miss her. Duke Ellington said there are
Duke
two
Ellington
types of music.
A dit, il y a deux types de musique.
The good stuff and all the rest.
La bonne musique et le reste.
And all the musicians know that.
Tous les musiciens connaissent cette citation
that
et ils savent
really
cela. Quincy, lui, il
music.
Aime cela parce qu'il considère que c'est de la bonne musique, évidemment.
Et nous avons fait l'expériment avec plus grands arrangements. Oui, nous avons fait ça.
Oui, vous avez essayé.
Oui. Mais finalement, nous avons décidé que ce mieux. Exactement comme ça, simple, acoustique, transparente. Et aussi le mode de chanter, c'est pas le mode d'opéra ou de. Je chante like water, like bells, you know.
Comme
it's very simple.
Comme des petites clochettes.
And it makes it very close to people.
Ce qui procure une certaine intimité ouais. Avec l'auditeur.
Et ça donne ce mélange absolu de jazz, de classique, de baroque, de variété. J'ai lu quelque part une sorte de scat baroque.
Yes, like scat. It's true, but you know. It's religiously
oui,
accurate.
Mais c'est
that's
d'une
why the classical musicians
fidélité
like it.
Religieuse. C'est
Bach.
Pour ça que les musiciens classiques
we
apprécient cet album. Nous sommes d'une fidélité à 100% envers Bach.
Noah, avec nous ce matin sur Europe 1, on continue d'explorer vos lettres à Bach, Letters to Bach, le nom de votre album, dans un instant.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Avec la chanteuse Noah qui a mis des paroles sur la musique de Bach, c'est son nouvel album et cela a produit des bijoux. On va écouter en entier un morceau, très bref, Little Loving, un bijou de 1 minute 17.
Little loving, just a little loving, that is all I need, yes indeed. Little loving, just a little loving, and I'll start believing in the Lord above and all those stories about the man, the ark, the dove, Moses bringing those tablets of tin. Love for a woman and man, I don't need all of humanity, all I need is you, 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 you. Make me feel the world is not a basket case when through my tears I see your smiling face. A little love and just some love and passion, and I'll see the world in optimistic fashion. Though it seems that we are losing, I can't connect to what the world has chosen. I'd resurrect a simple way of loving, minus push and shoving. Oh, oh, the angels sing, a little love, bring it in. A little loving, just a little loving out. Hello, mental.
merveilleux.
Oui, merci. Noah. Le travail de Gildor est très important ici, parce que dans cette pièce, nous sommes comme les deux mains de le piano. Hein, c'est une version pour deux mains. Je suis le main droit et il est le main gauche. Et la complicité que nous avons, c'est le résultat de
le résultat.
31 de travailler ensemble.
31 ans.
31 de travailler avec Gildor, cette musicien vraiment magnifique. Nous avons We are like dolphins. We swim like dolphins.
Nageons ensemble
comme des dauphins. Little loving, un peu d'amour.
Un peu d'amour.
Est-ce que vous pouvez nous dire en français ce que vous demandez dans cette chanson, un peu d'amour?
Yeah. Well, in this song, I say a lot. I say a lot.
Les paroles sont assez denses.
But I say, you know, I can't connect to what the world is choosing.
J'explique que je ne peux pas me comprendre les choix que nous faisons. Je veux de la simplicité, sans cupidité, sans se marcher sur les pieds les uns des autres. Un peu d'amour, voilà.
Vous en parliez tout à l'heure, il y a une chanson politique dans cet album qui parle du Proche-Orient, du conflit israélo-palestinien, Look at me, qui dit « Regarde-moi de l'autre côté de la frontière, à travers le mur ». On écoute et vous nous en parlez.
Merci.
Look at me. Across the border, beyond the wall, look at me the way you would observe yourself in life's broken mirror. No, I refuse to bow to those who say is changing now, and as it changes, there's no way to see the other like a child lost in the loneliest night.
Look at me. La façon dont vous chantez cela, Noah, me fait penser à John Baez. Et c'est un compliment dans ma bouche. Que dit cette chanson?
This song is about walls.
Il s'agit de murs.
Il
y a de nombreux murs. Parfois, nous érigeons des murs pour nous protéger nous-mêmes, mais bien souvent, nous bâtissons des murs parce que nous ne voulons pas voir l'autre, nous ne voulons pas voir leurs problèmes ou leurs douleurs. Et moi, je veux voir à travers le mur, au-delà du mur. Et là, je pense que c'est une qualité féminine. Donc, j'ai choisi de présenter deux femmes de part et d'autre du mur qui se regardent. Cela est inspiré par des groupes de femmes palestiniennes et israéliennes dont je fais partie et qui insistent obstinément de ne pas se rendre à la haine et à la violence et de rechercher chez l'autre l'humanité. C'est la seule façon d'arriver à la paix. Donc il s'agit d'un hommage envers les femmes et des efforts qu'elles font pour briser ces murs.
Noah, Let Us To Back, votre album chez Naïve, merci beaucoup. Merci infiniment d'être venu nous en parler.
Merci à vous, merci.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.